que ça va, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Si Gustave Mahler a dirigé de nombreux opéras, il n'en a pourtant pas composé. Et s'il ne trouvait le temps pour écrire de la musique que dans les périodes estivales, à l'écart des engagements professionnels et de la ville, la voix s'en est trouvée toujours centrale mais aussi liminale jusqu'à Le Chant de la Terre, qui tient en lisière dans son catalogue comme une sorte d'ajout arraché à la fatalité. Pour en parler, nous recevons le poète Olivier Cadio et le musicien Jasmin Eniel, à qui la Fondation Mahler et la Fondation Royaumont ont passé commande d'une œuvre librement inspirée du Chant de la Terre et qui ont pour ce faire eu une écoute de cette œuvre spécialement pénétrante, quitte à continuer de se tenir en lisière de celle-ci. Cet épisode de Métaclassique s'intitule Retourner, pour des raisons que nous demanderons à Olivier Cadio, poète qui a donc été invité dans les méandres de ce texte, méandres que nous allons explorer avec la spécialiste de Mahler, Anna Stolknecht, qui est musicologue associée à la bibliothèque Lagrange-Fleuret, où nous enregistrons cette émission en public. Extrait du premier mouvement du Chant de la Terre de Mahler dans la version donnée au Festival de Royaumont le 13 septembre 2020. Bonjour Anna Stolknecht.
Bonjour.
Quand je disais que la voix chez Mahler est toujours à la fois centrale et liminale, selon vous, c'est vrai un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout?
Mais c'est vrai qu'on a souvent dit qu'en tant que directeur de, enfin, en tant que chef d'orchestre et directeur d'opéra, pour un compositeur qui a passé sa vie dans les maisons d'opéra, que c'était étonnant que Mahler n'ait jamais composé d'opéra, mais c'est vrai, c'est aussi vrai que la voix est totalement centrale dans son œuvre, parce que tout simplement, il commence tout de suite à écrire des leaders, de nombreux leaders, pour piano et voix, mais aussi pour orchestre et voix. Et donc, le lead, la voix chez Mahler traverse toute sa production du début à la fin. Disons pas à la toute fin, parce qu'après Das Lied von der Erde, il repasse au Lied sans parole, si on veut, avec la 9e symphonie et l'esquisse de la 10e symphonie, où il termine en symphonie sans la voix. Mais voilà, elle est centrale, et on peut même dire que d'une certaine manière, dans la musique instrumentale de Mahler, la voix est partout. Parce que l'idiome vocal, sa façon de traiter l'instrumentation est profondément vocale. Donc elle est là, la voix, voilà, il n'y a pas d'opéra, mais la voix est partout. Et...
Mais s'il n'y a pas d'opéra, c'est parce que jamais il se résigne à la psychologiser, il la veut toujours ailleurs poétiquement ?
Alors, c'est difficile, je pense, de donner une réponse certaine à cette question. Il a quand même terminé le Drei Pintos, cette opéra comique de Karl Maria von Weber, dans les années 1880, si je ne me trompe pas, à la fin des années 1880. Donc il a donné un peu sa patte, il a eu à un moment donné à faire avec l'opéra, même si ce n'était pas son opéra. Je pense que peut-être une des raisons, c'est peut-être qu'il associait profondément l'opéra à son travail quotidien. Et il s'est souvent plaint que ce travail quotidien dans les maisons d'opéra le distrayait, comme Wagner. Wagner a eu la même plainte par rapport à son travail de chef d'orchestre, que ça le détournait de la composition. Et donc il a souvent opposé Mahler à plusieurs reprises, justement le bruit en fait de sa vie quotidienne dans les maisons d'opéra, avec toutes ces musiques, tous ces chanteurs, toutes ces tâches, et le silence en fait de ces mois d'été où il était souvent dans des petites maisons. Bon, il y avait les bruits des animaux, on en reparlera plus tard. Mmh. Mais il a souvent opposé un peu ces deux mondes, le monde de la composition qui était vraiment pour lui, où il avait beaucoup besoin de silence et de solitude, et le monde de l'opéra qui était pour lui quand même essentiellement bruyant. Et donc c'est quand même possible que pour lui, il y ait eu envie de sortir. Lui qui a été un des plus grands chefs wagnériens, enfin c'était un chef d'opéra extraordinaire. Donc il a énormément dirigé les opéras des autres et il a vraiment révolutionné en fait la direction d'orchestre opératique. Donc c'est pas comme s'il avait rien fait non plus dans le domaine de l'opéra. Mais peut-être que, voilà, j'ai pas vraiment de réponse claire à cette question de pourquoi il a pas composé d'opéra, mais il me semble qu'il y a un lien avec le fait que ce monde de l'opéra lui pesait aussi. Mmh. Et donc peut-être qu'il avait besoin de trouver son langage et de faire autre chose. Et finalement, Das Lied, c'est quand même vraiment... une espèce d'ovni comme ça dans sa production, qui est à cheval entre la symphonie et le cycle de Lieder avec orchestre. Et donc il y a toujours cette question, est-ce que Das Lied est plutôt un cycle ou plutôt une symphonie? Alors lui a donné une réponse assez claire. Alma rapporte que voilà, pour lui c'était... ce qu'elle dit exactement, c'est Mahler avait des problèmes pour trouver la forme, il n'arrivait pas très bien à terminer de composer cette œuvre, et quand il a compris que c'était une symphonie, il a pu la terminer. Et donc pour Mahler, apparemment, c'était quand même plus une symphonie avec voix qu'un cycle de Lieder, comme voilà, les Kindertotenlieder, c'est un cycle de Lieder avec orchestre, mais c'est pas une symphonie. Et Das Lied est quand même voilà, très particulier dans la production mahlérienne.
Olivier Cadio, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes tombé sur une phrase de Boulez qui disait en substance « Si on veut être à la hauteur de Mahler, il faudrait Joyce ou Proust comme librettiste. »
Non, c'est vrai que quand Francis Maréchal est venu nous voir, Jasmine Niel et moi, pour lancer ce projet extravagant, quand même, difficile, il ne savait pas lui-même ce qu'on devait faire, dans quelle direction se tourner.
Parce qu'au départ, il vous demandait plus ou moins une traduction.
Oui, il ne savait pas. Il disait qu'est-ce que c'est que cette dérive, cette poursuite. On ne sait même pas d'ailleurs quel mot employer tout à fait. Hein.
Oui.
Je ne sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous
je
avez
sais
dit,
plus.
Bon, oui. C'était bien. Et là, simplement, on s'est beaucoup. Moi, je me suis beaucoup questionné. J'ai regardé évidemment les textes et j'ai regardé, surtout grâce à la bibliothèque ici. Et j'ai pu obtenir des documents passionnants sur les différentes étapes du texte. Le texte final allemand ne m'intéressait pas. Bon. Alors, évidemment, il faut corriger la phrase de Boulez. Parce qu'en même temps, il ne faut pas non plus de trop beaux textes pour la musique. La musique n'a pas besoin de texte. Paradoxalement, il ne faut pas trop lui donner trop de belles choses. Le texte est là pour faire un support à l'extase, au chant. Donc on s'en fout. Et d'ailleurs, quand Jos Minel fait des samples, il vous le racontera mieux que moi, quand il va chercher, il va piocher dans l'allemand des choses... Il va s'occuper moyennement du sens. Il va choper la forme dont il a besoin. Quoi.
Veut dire que vous avez fait attention à faire un texte pas trop beau?
Alors, ça, c'est le problème. C'est comme j'ai essayé de faire un texte très beau. Et je ne dis pas que j'ai réussi du tout. On vous jugerait sur pièce. Je crois que c'est les textes... Vous verrez pourquoi je peux dire qu'il est beau, parce qu'il n'est pas de moi. Donc, pas tout à fait de moi.
On expliquera dans un instant.
Ce que je veux dire, c'est que je peux m'autoriser à être vaniteux, puisque ce n'est pas moi qui l'ai écrit complètement, donc ça va. Mais simplement, il est beau, et du coup... J'ai un peu, ayant une expérience de la musique contemporaine un peu, etc., les premières choses qu'on s'est dites avec Jos Minel, ce qui a quand même été une très grande entente immédiate, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas essayer que le texte soit indépendant presque de la musique, enfin, indépendant, pas tout à fait. Le texte va être intégré, c'est une pièce musicale, mais le texte qui est long, vous verrez, très long. Je pensais qu'il ne fallait pas le lire en entier. Joss a souhaité le lire en entier. Donc là, le texte a une fonction particulière. Donc il peut être pas mal.
Alors, avant que vous nous lisiez un extrait de votre texte, même s'il n'est pas complètement de vous, on va essayer de rentrer avec Anna Saltnecht dans le, j'appelais ça un démêlé en ouverture, en tout cas dans le palimpseste, des versions qui ont amené Mahler à lui-même réécrire d'ailleurs au départ des poèmes chinois. Il y a trois poètes impliqués.
Quatre.
Quatre, sur l'ensemble des six, des six moments.
Oui,
et là, il y a, en fait, il prend une anthologie de Hans Betjeu, qui est une traduction en allemand d'une autre anthologie.
De plusieurs autres.
De plusieurs autres qui sont en français.
Et en allemand.
Et en allemand, sachant que lui n'est pas sinologue, Hans Betjeu.
Non. Donc c'est ça. Donc si on résume, donc Mahler... Est-ce qu'on parle de 1907 ou...
Oui.
Voilà. Donc 1907 est une année charnière dans la vie de Mahler, puisque c'est l'année où c'est l'année des catastrophes. Il perd sa fille Maria dans des conditions vraiment tragiques, en juillet, je crois, 1907. C'est aussi l'année où il quitte l'opéra de Vienne, où il est resté pendant 10 ans. Et clairement, pour lui, Vienne, c'était une étape tellement importante que de quitter Vienne, c'était vraiment un déchirement. Surtout qu'il partait pour New York, où il savait pas vraiment ce qu'il allait trouver. D'ailleurs, il a pas survécu très longtemps à ce départ, puisqu'il est mort 2 ans après. Et on lui diagnostique aussi une faiblesse de cœur qui l'empêche de continuer à faire à crapahuter dans les montagnes, ce qui était vraiment son activité favorite, parce qu'il disait souvent qu'il composait, je sais pas s'il disait souvent, mais disons qu'il composait avec ses pieds beaucoup. Je sais pas s'il le disait, mais en tout cas, on peut le dire, parce qu'il avait vraiment besoin de bouger, de se promener, de noter des idées. Il était tout le temps en mouvement. Et donc, ces trois éléments différents font que 1907 est vraiment une année extrêmement importante dans sa vie, vraiment un peu une année tragique. Et à ce moment-là, peu après la mort de sa fille, Maria, il reçoit cette anthologie de Hans Bethke, qui s'appelle « La flûte chinoise », qui est composée de 83 poèmes. Ces poèmes, ces 83, donc cette anthologie de Bethke est elle-même basée sur, en tout cas, 3 ou 4 traductions différentes, françaises et allemandes, 2 poèmes chinois, justement, de poèmes Tang, donc de 4 poètes chinois différents. Donc on a ces différentes étapes. Donc au moment où Mahler reçoit ce texte de ses poèmes chinois en allemand, donc il y a eu plusieurs étapes entre-temps, et lui va également faire des modifications dans le texte, des coupes et des additions.
Et il va solliciter un sinologue pour créer une espèce d'arbitrage entre toutes ces versions, parce que en fait, il y a les traductions françaises,
je suis pas sûre à 100%.
Il y a Judith Gauthier qui a elle-même traduit des poèmes en français.
Ça, c'est une des versions sur lesquelles Bethke est basée.
Oui.
Voilà. Donc, il y a 2 Français. Il y a Darvet de Saint-Denis.
Oui.
Judith Gauthier. Et il y a justement Hans Heilmann. C'est ces textes français.
Donc, la version sur laquelle Mahler va travailler, donc c'est Hirt, le nom du sinologue qu'il sollicite, c'est une espèce de montage de textes à partir des anthologies plus de sa version transformée.
Oui, c'est possible.
Par des gens qui comprennent rien de ce qu'ils font.
C'est ça.
Ce qui est intéressant.
Ce qui est une prise de conscience qui est libératrice pour vous.
Qui m'a calmé complètement. Je me suis dit, bon,
non, parce que vous...
si je suis perdu, les autres aussi. Donc
non, parce que vous êtes d'abord allé chercher une sinologue, Olivier Cadio.
Oui, j'ai aussi cherché une sinologue qui m'a tout de suite dit que... Qui d'ailleurs ne comprenait pas vraiment les idéogrammes et qui m'a dit, là, c'est très mal traduit. Déjà, la première génération en français était mauvaise.
Oui.
Puisqu'elle est complètement... Elle perd complètement la notion des concepts. Chinois, elle fait des phrases, des petites phrases qui n'ont rien à voir. Donc, je ne pouvais pas aller, moi, traduire, faire une main supplémentaire, traduire l'allemand dans un bon français, soi-disant bon français. Ça, on aurait pu le faire si Joss avait eu besoin, au fond, d'un texte à intégrer vraiment dans le chant. On aurait peut-être, s'il avait choisi cette option musicale...
Il aurait fallu une espèce de respect prosodique.
Il aurait fallu que moi, je travaille à ce moment-là rythmiquement, etc. Donc... Simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé que j'allais pas le faire, d'abord, parce que c'était trop difficile, j'avais pas d'idée. Et bien finalement, je me suis dit, mais si je remplaçais le texte, ça n'a rien à voir, le texte, tout d'un coup, j'ai une illumination. Il se trouve que j'ai participé à une traduction de la Bible en 2001, complète, avec des écrivains, des exégètes, un projet assez formidable. Et j'ai traduit les psaumes en entier. Donc je me suis dit, les psaumes, ça n'a rien à voir avec les poèmes chinois du 7e siècle, mais il y a cette espèce de pureté, de simplicité, de rapport à la vie, à la mort, qui est quand même le thème de Stieg von der Erde, qui sont là dépliés de manière tellement incroyablement tendre et tellement forte. Ça. Et puis, parallèlement, je me suis dit, comme vous venez de le raconter, il vient de perdre sa fille, 1907, et je pense à un texte que j'aime énormément de Mallarmé, qui s'appelle « Tombeau d'Anatole », qui est un texte qui a été fait, qui est un texte qui n'est pas fini, qui est une ébauche pour un poème à venir sur la mort de son fils, qui est complètement déchirant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé, au fond, c'est un peu de moi, puisque c'est quand même de mes traductions, mais c'est pour ça que je peux me permettre de dire que c'est très, très lyrique et très beau, parce que c'est fait avec un matériau collé, cimenté, et qui respecte quand même les six parties de cette symphonie Lieder. Quand même, j'ai respecté la thématique. J'ai pas fait n'importe quoi, j'ai respecté, au fond, les six idées générales de chacun des leaders.
Moi, j'aime bien comment tout le monde se déplace par rapport à ce texte, parce que Henri-Louis de Lagrange, quand il fait toute l'histoire qu'on essaye de reconstituer là, à aller chercher le dédale des traductions, lui-même va chercher son sinologue pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Donc on s'en remet à une seconde main, parce que Malheur en était à déjà une quatrième main, et puis au bout d'un moment, on se déplace. Et alors vous, Olivier Cadiot, j'ai l'impression que Francis Maréchal vient vous chercher parce que vous avez une forte activité de traduction Shakespeare, on vient de dire la Bible, et finalement, vous vous remettez à un endroit d'écriture qui était bien antérieur dans votre travail, qui était celui que vous aviez d'ailleurs dans les années 80, une résidence longue que vous aviez faite à l'abbaye Royaumont, qui consistait à faire du cut-up.
À faire du collage, oui. Ouais. J'ai fait ça qu'une fois dans ma vie, pendant quelques années.
Enfin, et une deuxième fois, là.
Et là, pour la nouvelle, je recommence.
Oui.
C'est assez émouvant pour moi. C'est la différence, peut-être que ce sera peut-être pas audible, mais c'est pas tout à fait composé. C'est pas composé de manière complexe. C'est plus un flux. C'est un flux avec une sorte de variabilité sensible, plutôt qu'une composition sensée.
Avant d'accueillir Joss Mignel, je vous propose de nous lire un extrait de ce texte.
Bah, le début, tout simplement,
que vous avez
un tout petit peu
intitulé « Pour Mahler » et qui est publié aux
éditions
P.O.L.
Le texte où il sera publié aux éditions P.O.L. avec une postface de vous, justement, David Christoffel, qui explique très très bien les
le nombre de mains.
Le nombre. Voilà. Jeu de mains, jeu de... Je suis l'arbre. Transplanté dans les jardins d'eau, je suis fluide. Mon feuillage est vivant. Je me rapproche au ralenti d'un drame. Je suis à la fois ancien et moderne. Je me demande qui je suis. Je me compose. Je me décompose. Ganz takt nicht schnell. À un temps, mais pas vite. Asphyxié, tu élargis mon souffle. La tristesse me prend, la tristesse me prend. Si je ne chante pas, si je ne ris plus, personne ne saura ce que j'ai dans le cœur. Je prends congé intérieurement de cet enfant adoré. Je déplie toutes tes merveilles. La terre est morte et je suis encore vivant. As-tu de l'affection pour moi? On va boire beaucoup. C'est la saison. Je ne veux plus de paraphrase. Allez, vite, disparais vers les montagnes comme un oiseau. Flèche prête sur corde pour cibler cœur dans noir. Mes cendres sont dans l'herbe. Je n'ai pas deux joues de la même couleur. Je ne veux pas d'ombre quand on me dévisage. Sous le pont, il n'y a pas de reflet. Je prends congé intérieurement de cet enfant adoré. Mes œuvres sont des événements anticipés. Chaque fois que j'entends la musique, je réponds aux questions. Ce qui est au fond de la terre, c'est moi. Je suis composite, ciel, terre, toujours, idéogramme. Il arrive et le son change.
Pour donner un aperçu de l'ampleur du tricotage, disons par exemple que « je me compose, je me décompose », ça c'est une phrase d'Olivier Cadiot antérieure.
Oui, je fais après, autour de ce Mallarmé, de ce psaume,
ouais,
qui sont comme la base, j'intègre énormément de choses, de choses qui deviennent d'horizons très différents.
Asphyxié,
je prends congé intérieurement de cet enfant adoré, c'est une phrase de Mahler dans la correspondance.
Ah, dans la correspondance, pas dans le chant de la terre.
Non, donc ça carrément, j'ai pu avoir quelques phrases du maître à l'intérieur.
Et asphyxié, tu élargis mon souffle, c'est
ça, les psaumes. Ça, c'est les psaumes.
Ouais. Et je ne veux plus de paraphrase, c'est de vous?
Je ne sais pas d'où ça vient.
Ah. Parce qu'on en est là quand même.
Je ne peux pas la phrase. Ouais. Je pense que c'est du Mallarmé, mais je ne suis pas sûr.
Ouais.
J'ai oublié.
Alors, pendant que Malheur, puis Henri-Louis de Lagrange, puis Olivier Cadiot vont chercher des sinologues, vous, Joss Mignel, vous allez chercher des musiciens chinois.
Bah oui, en toute logique. Ouais. D'abord parce que j'ai un pied aussi dans le monde de la musique traditionnelle depuis des années, étant moi-même flûtiste et puis passionné d'ethnomusicologie. Et c'est un continent avec lequel j'ai beaucoup lié d'amitié avec des musiciens, en particulier en Corée du Sud, avec lequel j'ai fait des albums déjà. Et puis, c'est l'art de la flûte que j'aime beaucoup. Alors, je trouvais que là, incorporer, intégrer en tout cas des musiciens traditionnels, en tout cas avec la sonorité des instruments traditionnels, dans un programme comme celui-là, était un pas de côté, mais pas tant que ça en réalité. Parce que, d'une certaine manière, il y a deux instruments que j'ai choisis, qui sont le yangqin, dans la famille des cymbalums, on va dire, et des centours, mais c'est beaucoup
plus de cordes.
Oui, il y a plus de cordes sympathiques, et puis c'est un instrument qui a un plus gros registre aussi. Ça descend vraiment dans la clé de fa, ça monte beaucoup plus haut dans la clé de sol. Et puis, cet instrument que j'adore, qui est trimillénaire, je crois, qui est le cheng, qui est l'orgue à bouche. Et là, pour le coup, le musicien qui va en jouer a vraiment un instrument aussi très, très large en termes de registre. Donc, en fait, c'est à la fois ces deux instruments. Pour moi, c'est l'harmonium, la harpe. Ça me sert aussi de résonance à l'orchestre. Enfin, quand on fait des réductions pour orchestre de chambre, on adapte un symphonique avec harmonium, harpe, piano. Voilà. Là, il y aura piano, yangqin et cheng, et ça me fait un petit peu mon terrain de résonance, un peu mes fonds d'orchestre d'une certaine manière, que je pourrais pas avoir avec le reste.
Voici la yangqiniste que vous avez sollicité, Yaping Wang, extrait d'un concert aux Instants Chavirés le 2 mars 2023. Avant qu'Olivier Cadion essaye de nous restituer pourquoi on a appelé cette émission Retournée, est-ce que vous pourriez nous dire, Joss Méniel, si vous vous êtes écarté du texte musical malheurien à égalité de distance que la liberté prise par Olivier?
Je sais pas, je suis pas très bien placé pour le dire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas une seule note du programme qui n'est pas de malheur.
D'accord, donc tout vient de la partition.
Exactement. Par contre... je l'ai sérieusement transformé à ma manière, c'est-à-dire j'ai fait des coupes déjà, évidemment, comme Olivier parlait, de cut-up, de collage, parce que je viens aussi du jazz et de la musique électronique, et j'ai beaucoup travaillé avec les samples, donc j'aime bien aussi manipuler les orchestres vivants, entre guillemets, de cette manière-là, et avec des vraies douches froides, et des vrais tapis qui se dérobent sous les pieds, et des auditeurs et des musiciens, pour créer une surprise et une aventure d'improvisation ou d'interprétation, enfin, tout ce qui peut mettre en danger, en fait, voilà. L'écoute, et en même temps, quelque chose qui vient flatter un peu tout ce que j'aime, moi, chez Malheur, c'est-à-dire cet aspect contemplatif, poétique et ralenti. Donc, il y a plein de moments où, en particulier pour offrir aussi une fenêtre de idéale pour Olivier Cadio, j'ai ralenti, j'ai gelé l'orchestre, j'ai gelé la musique sur un temps, une mesure. J'ai divisé par trois des fois le tempo, j'ai enlevé des instruments, il n'en restait qu'un. Voilà, il se passe d'un seul coup quelque chose qu'évidemment qu'on n'entend jamais dans la partition originale, mais qui est finalement la partition originale. Et à ces moments-là, j'ai en gros ouvert le moteur, j'ai enlevé tout, et c'est un rapport très analytique que j'ai avec la musique, c'est-à-dire que je prends partie par partie, des fois, on écoutait le début tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de choses, on parlait d'un flux, mais il y a énormément de choses qui se passent à tout à tous les pupitres. Moi, j'aime bien d'un seul coup extraire quelque chose qui m'intéresse et de le mettre en valeur, alors que normalement, il n'était pas forcément mis en valeur, il servait quelque chose d'autre. Bon, voilà, ça c'est ma manière de mettre un coup de projecteur sur certains moments, et du coup de permettre à ce que d'un seul coup le temps du texte, qui n'est pas celui de la musique, soit idéal, en fait, voilà, dans l'œuvre de Mahler, dans la continuité des six mouvements.
Ça veut dire davantage se saisir de l'humeur mahlérienne que d'en restituer le langage.
Oui, parce que je pense que c'était pas forcément... En tant que compositeur, jazzman, orchestrateur, voilà, l'idée, c'était pas de réinterpréter cette partition d'une autre manière, ou c'était d'en faire un objet nouveau, en fait, hein, comme Olivier l'a pu s'en inspirer aussi. Moi, c'est pareil, je m'inspire aussi de ces moments, moi, qui me servent de terrain de jeu, en fait, parce que dans cet orchestre que je vais présenter, il y a des musiciens de jazz, des musiciens classiques et des musiciens traditionnels chinois. En plus de cela, il y a un chœur d'enfants et une chanteuse soprano. Donc, il y a tous ces gens-là et il faut que je donne de la matière à tous ces gens-là. Et moi-même, j'ai besoin d'avoir cette matière aussi pour m'amuser. Voilà, et Olivier récitant au milieu. Donc, il n'y a quand même pas grand-chose de l'œuvre originale dans la restitution orchestrale, à part les cordes et la flûte. Mais par contre, toutes les notes viennent de Daslin, ça c'est sûr, hein, certain.
Olivier Cadio, pourquoi alors on a appelé cette émission Retourner ? Parce qu'il s'agit d'un retour aux sources. On en avait convenu ensemble pourtant il y a quelques temps. Il s'agit d'un retour aux sources et à retourner à mieux que la source en quelque sorte alors, non ?
Non, c'était très prétentieux de dire ça quand même. Non. Mais c'est vrai que je me suis retourné sur mon travail d'avant pour reprendre quelque chose, pour justement ne pas vieillir. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire pour faire une sorte de retour et accélération. C'est comme si je revenais en arrière sur des textes anciens, je les reprends et j'essaie de les réaccélérer. Je les remets dans la roulette, quoi. Je relance. Donc c'est important. Il faut se retourner, c'est un mouvement comme ça. C'est des textes qui se retournent et qui avancent. Je sais pas comment dire. On sent pas mal, non ? C'est bien.
Oui, mais
non. Ça a l'air pas très clair, mais du coup, on voit à peu près que c'est à peu près la même idée, non ?
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a tout un jeu d'écran dont on va accueillir les diffractions, j'ai l'impression. De la même façon que Joss va prendre des instruments chinois parce que il y a des sources chinoises qui sont tressées dans Mahler, Olivier, vous allez chercher Mallarmé aussi parce qu'il y a Barthes entre-temps. Vous entendez la voix de Barthes sur Bourgeois-Lieff dire ce texte et ça vous saisit à ce moment-là.
Pour résumer l'anecdote, j'habitais en Allemagne à l'époque, j'écoute la radio et au hasard, sans savoir ce que c'est, j'entends une pièce extravagante qui musicalement ne me plaît pas beaucoup, très électronique, très austère, un peu ennuyeuse à mon goût.
Qui s'appelle Traîne,
qui est d'un personnage très important, je trouve, dans la musique, qui s'appelle André Boukouretchev, qui était aussi un très grand critique musical.
Et musicologue.
Musicologue, je veux dire. Et pas critique musical, musicologue. Et tout à coup, j'entendais une voix extraordinaire, une voix qui était à la fois tragique et complètement légère.
Avec don de parole, j'aurais pu te faire roi, faire de toi l'enfant de l'œuvre.
Et après, j'ai appris que c'était la voix de Barthes, bizarrement. Roland Barthes, faisons récitant. Et c'était le texte, c'était Tombeau d'Anatole. Il interprétait Tombeau d'Anatole. Et c'est là où je suis tombé amoureux de ce texte que je ne connaissais pas, qui était un inconnu, qui n'a été découvert que dans Entre-deux-Guerres, qui n'est pas dans le premier Pléiade Mallarmé, par exemple. Et j'en viens à la question qui m'intéresse tant. J'ai travaillé pas mal avec des musiciens contemporains quand j'étais très jeune, avec Pascal Dussapin, par exemple, avec Apergis, etc. Et mon souci, c'était justement que le rapport au tragique. J'avais un problème. C'est-à-dire que j'aime les textes comiques. Je ne dis pas que ce texte ça va être comique, mais j'aime les textes en pleine santé. J'ai beaucoup de mal avec les textes de plainte.
Oui, mais vous avez le souci qu'un texte, quel qu'il soit, dès qu'il s'approche de quelque chose qui ressemble à de la musique contemporaine, il devient plaintif ?
C'est ça. Il est attiré vers quelque chose. Et là, je pense qu'avec Joss, ça va se passer très, très différemment. Parce qu'on s'est tout de suite compris, on n'a pas envie de ça tous les deux.
Ouais.
Enfin, non, je te
tout
laisse
à fait d'accord.
Il y a quelque chose dans le mood. Surtout que cette pièce est quand même extra. À cause de ce que disait Anna, c'est une pièce qui est funèbre aussi. Enfin, il faut c'est pas une critique de dire que c'est une pièce extrêmement sombre.
Parce que, si je comprends bien, vous allez geler la musique de Mahler pour pouvoir permettre à Olivier de garder un texte en bonne santé.
Parfois.
Parfois, et,
parfois
et,
même,
et,
la, et l'inverse. Il n'a pas de musique, parfois.
Et l'inverse, l'inverse, l'inverse aussi, j'espère que mon texte va permettre à la musique d'être très libre, du coup. La musique s'affranchit du texte grâce à ça. Mmh. La musique n'est pas là à traiter un texte. Elle prend ce qu'elle veut de tous les côtés, elle choisit. Elle instrumentalise, là, pour le coup, le texte allemand, mais pas le texte français. Donc, c'est une bonne négociation.
Alors, au cours de ces échanges, pas seulement entre vous, Olivier et Joss, mais aussi entre vous, Joss et Anna Stolknecht, il y a eu un élément de langage malérien qui est venu faire débat, qu'on pourrait, à titre de démarrage dans la discussion, appeler le groupe Eto, et qui est particulièrement exposé et important dans le début d'Der Ashbid, la sixième longue plage de ce champ de la Terre. Alors, ce groupe Eto, déjà, vous ne le prononcez pas pareil, je crois. Vous dites Tabadabadam, vous, et vous, vous dites Tadidadadam. Non,
c'est ça, oui. Tadidadadam.
C'est plus qu'un ornement quand il est manipulé par Mahler.
Alors, je pense en effet que donc c'est un ornement à la base, donc, qu'on trouve dans toute l'histoire de la musique depuis la musique baroque. Donc en soi, ça peut paraître un élément insignifiant puisque c'est un ornement et qu'on va le trouver partout. Mais chez Mahler, dans certaines œuvres comme le mouvement lent de la troisième symphonie et surtout le dernier mouvement, donc Der Abschied de Das Lied von der Erde et le dernier mouvement de la neuvième symphonie, l'Adagio, dans Das Lied et dans la neuvième symphonie de Mahler, il a une façon d'utiliser ce qui est à la base un ornement et d'en faire une substance extraordinairement importante, parce que si on pense à l'adagio de la neuvième, c'est la matière de l'adagio, c'est ça, c'est cet ornement. Donc, ce geste-là est vraiment constitue la substance de tout le dernier mouvement de la neuvième de Mahler, et c'est ça qui reste à la fin. C'est tout ce qui reste à la fin, quand la musique met 5 minutes à mourir et est tombée dans le silence. C'est ça qui reste, c'est ça qui est ralenti, c'est ça qui est étiré, c'est ça qui est fragmenté jusqu'au silence.
On peut l'écouter dans la version du Philharmonique de Vienne, dirigée par Bruno Walter. C'est-à-dire donc ce qui était un ornement d'un petit motif qui tourne autour d'une note pivot devient un motif, mais là qui est un motif qui fait une musique en train de s'éteindre, vous dites.
C'est ça, et surtout c'est un motif qui envahit toute la texture, qui apparaît à chaque couche en fait, qui est retournée, qui est dans le bon sens, qui est ralentie, qui est accélérée. Donc c'est comme une espèce d'obsession autour de ce motif. Et donc là, on parle du dernier stade chez Mahler, de son traitement final de ce motif-là. Et dans Das Lied, surtout dans le dernier mouvement, on a déjà une anticipation un peu de ce travail, puisque c'est pas... Alors là, je dirais pas que dans Der Abschied, il ne reste que ce motif-là, puisqu'il y a bien d'autres choses. Mais il est déjà très présent, et il y a déjà un petit peu ce traitement obsessionnel, parce qu'en fait, c'est extraordinaire comme c'est très différent d'ailleurs la manière dont il utilise ce motif dans Das Lied et dans la neuvième. Parce que dans la neuvième, il est enchaîné à lui-même, en fait, il est partout au même moment, à différents registres. Alors que dans Das Lied, en fait, il est vraiment mis en lumière par des solos chaque fois. Donc on entend tous les instruments le faire. En fait, je me souviens plus, j'avais fait la liste, mais il apparaît à la flûte, il apparaît à la clarinette basse, au cor, il apparaît partout, mais en solo. Donc c'est vraiment comme une manière de mettre justement un projecteur sur ce motif à chaque fois dans un timbre différent. Et il y a un truc extraordinaire, c'est qu'en fait il est tout le temps instrumental, mais au moment où dans Der Abschied il y a cette phrase « Ich suche Ruhe für mein Einsamer », ouais je pense, non, « für mein oh, », je ne sais plus les conjugaisons, non, « Einsam Herz », donc je cherche le la paix pour mon cœur solitaire, sur Einsam, enfin, je ne sais plus quelle est la terminaison de la conjugaison, excusez-moi. Sur Einsam, donc le cœur solitaire, on a en fait à la voix, tout d'un coup, on a ce motif à la voix. Et je crois que c'est l'unique moment dans Der Abschied où ce motif est vocalisé, donc il apparaît à la voix en fait. Donc ça m'a paru très... pas du tout un hasard qu'à ce moment-là, sur cette phrase tellement cruciale, je cherche la paix pour mon cœur solitaire. Je veux dire, tout est là, en fait. Cette espèce ça part de la deuxième pièce, déjà, où il dit cette phrase magnifique, « Mein Herz ist müde, gib mir Ruhe », donc « Mon cœur est fatigué, donne-moi la paix ». Et à la fin, « Je cherche la paix pour mon cœur », etc. Et à la fin, on trouve la paix, et cette espèce de paix éternelle. Et il y a vraiment, justement, ça résonne avec la 9e symphonie, et... Pour moi, il y a un parallèle très clair à faire avec Parsifal.
Parce que c'est aussi au moment où Kundry cherche le repos.
Exactement.
Que l'orchestre prend le relais avec ce groupe.
Voilà, et on a ce personnage de Kundry qui est justement cette espèce de figure du Wanderer qui cherche en permanence, qui est condamnée en fait à la recherche éternelle puisqu'elle s'est moquée du Christ sur la croix. Et le Christ à ce moment-là l'a regardée et ça l'a condamnée à cette errance éternelle de... pour la rédemption, en fait. C'est une recherche éternelle de rédemption. Et on a vraiment ce motif qui est utilisé dans Parsifal d'une manière très, très particulière, parce qu'il apparaît moins souvent que certains motifs, mais quand il apparaît, c'est toujours d'une certaine manière, justement, il n'est jamais vocalisé, quasiment jamais. Je crois qu'il y a une fois où il apparaît à la voix, mais sinon, c'est l'orchestre qui joue ce motif. Et en fait... Enfin, voilà, c'est ma manière de comprendre ce motif dans Parsifal. C'est vraiment un peu quand on essaye de parler de la mort, quand on essaye de parler de la rédemption, en fait, quand on essaye de parler d'un mystère qu'on ne peut pas vraiment verbaliser puisqu'on ne connaît pas la mort. Et voilà, il y a certaines choses que l'être humain ne peut pas connaître vraiment avant de les vivre. Et après, évidemment, on ne peut plus en parler. Mais au moment de parler de ces mystères, en fait, c'est comme si l'orchestre prenait le relais de la parole pour exprimer quelque chose que les mots ne peuvent pas exprimer. Et voilà, et j'aimerais juste rappeler qu'à la fin de la 9e symphonie de Mahler, dans cette fin où il utilise ce motif en fait, qui tourne, ce geste musical qui part d'un point de départ et qui revient au même point de départ, mais en ayant fait un petit tour entre deux, donc en fait c'est...
Une montée et une descente.
Voilà, ou alors le contraire, une descente et une montée. Mais donc dans ce mouvement, dans cet adagio de la 9e, où il est partout, où il intervient absolument à tous les niveaux, on a une citation d'un Kindertotenlied de Mahler, donc qui avait écrit les chants, c'est un rapport avec Das Lied, puisqu'il s'agit de la mort d'un enfant. Et donc quand Mahler avait écrit les Kindertotenlieder, il avait encore ses deux enfants. Et au moment où il écrit la 9e, en 1909, une de ses filles est morte. Et donc, il fait une citation instrumentale d'un Kindertotenlied comme si, en fait, comme si, voilà, c'est comme ça que je l'interprète, comme si on ne pouvait plus avoir les mots. Une fois qu'on a vécu le mystère, en fait, enfin, cette tragédie du deuil d'un enfant, les mots, quelque part, sont, voilà, enfin, l'orchestre prend la parole à la place des mots, si on veut.
Et vous, Joss Mieniel, quand, en effet, Anna vous saisit de ça, vous entendez Morricone? Mais pas que, hein, vous entendez aussi Charlie Parker, enfin...
Bah oui, là, ça, j'adore ça. Ça c'est... Mais j'ai une petite tendance à entendre dans toutes les musiques des musiques de films. C'est un petit problème. je crois que je suis dans un film en permanence. Mais c'est vrai que chaque moment de ma vie, j'ai l'impression que je peux mettre une musique par-dessus. Et tout. Mais alors, quand j'ai découvert ce groupetto, comme vous l'appelez, tabadabadam... Moi, je regardais là justement dans la partition de l'heure parce que par rapport à l'extrait que vous avez passé tout à l'heure de Yaping Wang, qui est la joueuse de Yan Qin, en fait, ils font que des groupetto, les musiciens chinois, sur cet instrument. Et elle fait que ce genre de choses parce qu'il y a des dynamiques. En fait, c'est une manière de faire, d'arpéger la corde de telle manière, pas comme au piano, qu'il y a une résonance, une sorte de persistance auditive, et il le crée d'ailleurs en plus de la phrase de hautbois. Il y a ce tam là, donc c'est un énorme gong là avec le contrebasson, les contrebasses, et du coup la résonance de l'accord avec les clarinettes ou les corses. En effet, ça varie tout le temps dans la partition, mais il y a une sorte de restitution comme ça d'un instrument traditionnel, en fait, avec des cordes sympathiques qui font résonner la chose beaucoup plus longtemps que ce qu'on entend sur un instrument comme le hautbois, qui finalement, où moi je suis flûtiste, c'est pareil, hein, quand on arrête le son, ça s'arrête. Mais ces instruments chinois, en fait, peuvent permettre ce genre de choses. Et c'est vrai que Morricone a repris beaucoup de ce genre de langage, et puis, pour le coup, Mahler a été illustré au cinéma de manière magistrale, et je pense que c'est la première fois que j'ai entendu sa musique, c'était justement dans Mort à Venise. Du coup, il y a quelque chose qui fait qu'à chaque fois, je reviens, moi, sur... une image de Mahler cinématographique qui est quelque chose de très, ce que je disais tout à l'heure, un ralenti, poétique, enfin, je sais pas, hors du temps, mais même hors du tempo, presque, d'une certaine manière. J'aime beaucoup les versions les plus ralenties de Mahler. Celles de Bernstein sont très, très ralenties à certains endroits, c'est christique, presque. Il en fait, comme Anna disait, quelque chose de très personnel. Et moi, c'est ce que j'aime. J'ai tendance à composer toujours de la slow music, comme j'appelle, même quand je fais du jazz ou de la musique électronique. Et il y a quelque chose de... comme si quelque chose avait disjoncté, quoi. Et la fin de l'adieu, c'est quelque chose qui est assez élastique, c'est-à-dire on a une mélodie qui va s'étendre de plus en plus à part de 2, 4, 6, 8 mesures, 10 mesures, et c'est un long soupir, quoi, jusqu'à l'éternité. Et il y a quelque chose comme ça où on ne comprend plus la métrique du temps. C'est presque, à cet endroit-là, je trouve que c'est très proche de la musique indienne, des alapes, des introductions de musique classique indienne, que moi j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué, que je pratique encore. Et du coup, il y a quelque chose comme ça de
flotte, c'est pareil, on tourne autour du ton que l'on prend pour...
Oui, on tourne autour de la note du ça, en fait, et on développe comme ça la gamme petit à petit. C'est ce qu'il fait un peu dans cet adieu, c'est-à-dire qu'il développe la gamme petit à petit, on a tous les degrés comme ça de la gamme, c'est modal, en fait, voilà. Ça devient vraiment modal, cette pièce.
Anna Stolnecht, quand vous écoutez l'Adagietto de la 5e symphonie, donc, que l'on retrouve dans la bande originale du film de Visconti, Mort à Venise, que vient de citer Joss, vous entendez aussi qu'au mouvement d'après, après avoir fait quelque chose de sublime, il casse tout.
Mm-hmm. Ouais, je lui en ai beaucoup voulu, en fait. Quand j'ai entendu pour la première fois la symphonie en entier, et que j'ai réentendu cet adagietto dans son contexte et que j'en croyais pas mes oreilles, en fait. Quand dans le mouvement d'après, il reprend cette musique tellement sublime et il la rend grotesque et moqueuse, en fait. Bon, après, j'ai compris petit à petit que c'était vraiment... Que c'était Mahler, enfin que c'est vraiment son côté. D'ailleurs, c'est quand il dit à un moment donné, il parle d'une musique un peu de populaire comme ça qui passe sous sa fenêtre. Je sais plus à quel endroit elle se trouve cette anecdote. Et il dit que justement, il en peut plus parce qu'en fait, il en peut plus que sa musique soit constamment envahie par des autres musiques, comme s'il y avait un élément de la composition qui contrôlait pas entièrement et que sa musique était en permanence envahie en fait par d'autres musiques qui étaient dans sa tête et qu'il avait besoin de coucher sur le papier. Et il y a un côté chez Mahler comme ça, et c'est justement, c'était ça que je trouvais tellement, une des choses que je trouvais tellement mahlérienne dans le texte d'Olivier, parce que j'ai pas encore entendu la musique de Joss, mais j'ai pu lire le texte d'Olivier. Et cette phrase, justement, je me compose, je me décompose, qui revient dans tout le texte avec des variations. Pour moi, c'est ça qui était fou quand on parlait avec Olivier, parce que je lui disais, mais ça, c'est tellement mahlérien, parce qu'en fait, il a justement... Alors déjà, dans « Je me compose », il y a cet élément autobiographique, justement, ma musique parle de moi, il y a une grande association qu'on fait en permanence entre Mahler et sa musique. Il a aussi dit ailleurs qu'il composait le paysage, donc à un moment donné, il a dit à Bruno Walter, « Non, c'est pas la peine de regarder les montagnes, je les ai déjà composées. Ouais. » Et donc, il y a cette idée qu'en fait, la musique sert à parler du monde ou à parler de lui-même. Et « je me compose, je me décompose », ça c'est vraiment une phrase qui m'a tout de suite fait penser à Mahler, dans cette tendance qu'il a à construire quelque chose de sublime et à le casser droit derrière. Mais c'est presque malgré lui, en tout cas comme il en parle, on a presque l'impression que ça le fait souffrir lui-même, en fait, cette tendance qu'il a de construire et de fragmenter, et de construire et de détruire. Après, moi, je pense que quand même, chez Mahler, quand on pense à toute sa musique et quand on pense à là où il arrive, je pense qu'en fait, c'est pas qu'il a tout cassé à la fin. C'est-à-dire que je pense qu'il a, à mon avis, mais ça, c'est personnel, mais je pense que Mahler, en fait, il avait envie de croire à une certaine forme de rédemption. Et sa musique, en fait, fondamentalement, elle va vers le haut. Donc, je pense qu'il y a... je pense pas que c'est une musique qui est noire et qui est pessimiste, en fait, jusqu'au bout. Mais on sent qu'il y a cette tendance, en fait, contre laquelle il se bat un peu, mais qui est aussi magnifique, parce qu'elle est tellement humaine, de justement, je bâtis et je casse droit derrière.
Olivier Cadio, quand vous thématisiez tout à l'heure ce problème d'une poésie qui, s'avoisinant de musique, devient par trop pathétique, c'est un problème que vous voyez justement résolu à un endroit qui est les Sinfonias de Berlioz, où la musique de Mahler se trouve présente dans un état assez bordélisé.
Tomorrow we'll read that Berlioz alternati made tulips grow in my garden and alter the flow of the ocean currents. We must believe it's true. It must be something else, otherwise it would be quite hopeless. But it is quite hopeless. Unquestionably. But it can't go on. It's again, not knowing what. It's getting late. Where now? I have a present for you. Keep going, page after page, keep going on. Call that going, call that on. But wait, he is barely moving now, almost still. Should I make my introductions? We have Sarah Eden, first soprano, Darren Edwards, second soprano, Rachel Weston, first alto, Heather Campbell, second alto, Gavin Cuthbertson, first tenor, Robert Keeley, second tenor, Mark Williams, first bass, and David Porter Thomas, second bass. But now it's done, it's over, we've had our chance. There was, even for a second, hope of resurrection, or almost. Mein junges Leben hat ein End. We must collect our thoughts. for the unexpected is always upon us. In our rooms, in the street, at the door, on a stage.
Mais là, il manque.
Et ben, c'est parce que c'est pas Boulez qui dirige, mais Berlioz lui-même.
Parce qu'il y avait quelque chose à la fin de cette pièce, quand j'ai, c'est une pièce très célèbre hein, que j'avais découverte dans les années 80, quand j'ai commencé à écrire. Et ça se terminait par « Thank you, Mr. Boulez ». J'ai trouvé ça, vraiment. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est vrai que ça m'a donné envie de, faire, de travailler avec des musiciens. Parce que je me suis dit, voilà un équilibre parfait.
Alors, précisément,
entre la citation, la modernité, et l'audibilité, la clarté et le mystère, on entend tout. C'est un peu conceptuel, parce qu'on voit bien qu'à la fin, ils présentent simplement les musiciens.
Oui.
Bon, alors, c'est pas, mais en même temps, il parle de résurrection. Anna vient de dire des mots qui sont proches. C'est une coïncidence incroyable. C'est-à-dire, c'est une pièce qui est une pièce critique aussi. C'est-à-dire, c'est une pièce sur la musique.
Mais c'est pas en vertu de ce que vient de dire Anna que c'est une musique qui ne souffre pas d'être démembrée et qui, par conséquent, est si accueillante à la poésie.
Exactement.
Et sans que la poésie ait besoin de se pathétiser pour autant. Quoi.
Exactement. Ouais. Et tout d'un coup, il y a une joie, une audibilité merveilleuse.
Oui.
Je trouve. Je sais pas ce que t'en penses.
Mais dit comme ça, ça va être super facile, en fait, de démembrer Malheur et d'en faire du beau quand même.
Ouais. Dit comme ça.
Dit comme ça.
Non, il faut se laisser guider par le plaisir aussi de justement des rebonds, en fait, voilà, d'une certaine manière. Parce que là, ça rebondit dans tous les sens, c'est génial. Pour moi, c'est un trampoline musical, ce truc. Un truc comme ça, hein, quelqu'un qui chante derrière.
Le Berlioz.
Mais je pense qu'on va essayer de faire un truc un petit peu dans ce genre-là, hein, de toute façon, avec un autre matériau, certes. Mais parce que dans les six mouvements, il y a des choses très, très, très différentes, des thèmes et des tempos très, très différents, qui rebondissent beaucoup, d'ailleurs. Dans le premier, on a entendu tout à l'heure, il y a des choses incroyables, en fait. Ça module dans tous les sens. C'est très, très difficile d'analyser... comment dire, de vraiment analyser harmoniquement Malheur, c'est très difficile, c'est réputé pour être très très difficile. Et nous les jazzmen, on adore mettre des accords, les chiffrer et tout ça. Là c'est l'enfer, hein, parce que en fait il y a que des glissements de terrain, quoi, voilà. Donc ça se dérobe sous les pieds, d'un seul coup il y a une tierce majeure, on sait pas où, à quel instrument, alors que le truc est mineur, enfin, et c'est sans arrêt un truc qui traîne ou qui est en avance, enfin bon, c'est un truc comme ça qui se balade. Moi j'aime bien, hein, je trouve que ça rebondit dans tous les sens, et on est un peu malmené, mais ça va bien se passer.
Mais en tout cas, c'est bien comme ça que vous affirmez que c'est un bon lieu de rendez-vous entre des musiciens de jazz, des musiciens traditionnels,
ah ouais,
des musiciens classiques.
Mais d'ailleurs, il y a énormément de musiciens de jazz qui se sont emparés de Malheur. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont attaqué ça. Et ce qui n'est pas forcément sur le papier si évident, en fait. Mais il y en a beaucoup.
Uri Kine, notamment.
Ouais. Uri Kine qui a fait un très bel album.
Malheur Project.
Sur, ouais. Winter and Winter, que j'adore. Comme, ouais.
Enfin, il en a fait d'autres, mais celui-là est particulièrement bon. Il a fait aussi Mozart. Et... Anna Stocknecht, un mot sur le malheur écologiste, parce que quand on fait l'histoire des musiques écologiques, on met souvent la troisième de Malheur comme un point d'inauguration. C'est vrai qu'il avait un rapport à la nature thématisé, mais aussi toujours hybridé, c'est-à-dire que bah, y a de la fanfare qui passe, il n'y a pas que le souffle de la montagne.
Non, c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire avec Mahler, c'est que bon, c'est clairement un des compositeurs qui fait un de ceux qui fait le mieux les sons de la nature. Enfin, c'est magnifique, du bruissement des feuilles aux petits oiseaux. Enfin, c'est magnifique parce que c'est pas seulement justement stéréotypé avec le son du coucou, etc. Il y a aussi ça, mais il y a vraiment des sons extraordinaires de la nature. Mais ce que j'adore avec les sons de la nature de Mahler, c'est qu'ils sont toujours compliqués par justement des sonneries militaires, par des bruits de la ville, par des bruits de danse. Puis un des super exemples pour ça, c'est vraiment la 7e symphonie, les musiques de nuit qui sont au milieu, là, le 2e et le 4e mouvement de la 7e symphonie, où on a justement dans la première musique de nuit, on a tous ces sons de la nature, ces appels de cors, les petits oiseaux, les bruissements des feuilles. Et on a constamment, en fait, ça qui est mis en conflit avec d'abord une marche militaire qui se transforme ensuite en danse habanera comme ça. Donc on n'a jamais de la pure nature chez Mahler, et d'ailleurs ça correspond assez avec ce qu'il vivait lui, de justement cette tension constante entre le calme de la nature, mais aussi le bruit de la ville qui venait toujours déranger cette tranquillité. Donc c'est pas une vision purement romantique idéal, idyllique. Voilà, c'est l'idylle chez Mahler est toujours compliquée par d'autres sons qui viennent contredire ça.
Et notamment, il demande à Alma d'aller retirer les cloches des vaches aux alentours de sa villégiature.
C'est ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le pauvre s'y voyait qu'à Toblach, dans une de ces maisons, de ces petites cabanes de compositeurs qu'il faisait construire pour composer en paix, c'est maintenant au milieu d'un zoo. Donc il a sa cabane de compositeur qui est au milieu de tous les animaux. Il serait horrifié parce que justement, ouais. il demandait vraiment... même les cloches de vache, il ne supportait pas, en fait. Donc il demandait à Alma d'aller retirer les cloches de vache pour rester en silence.
Et ça, Olivier Cadio, vous vous dites qu'effectivement, en 2024, on ne peut pas être dans le rapport à la nature d'un compositeur du début du XXe siècle.
Non, mais c'est vrai qu'on ne s'en sort pas par la nature. Dans le texte que je propose,
d'ailleurs,
la nature, je dis, la Terre est morte.
Et je suis encore vivant.
Et je suis encore vivant. Donc j'ai un peu inversé l'optimisme final, qui est qu'on allait avoir cet accès vers le haut, grâce à la nature, quand même, la nature étant le motif, le pivot quand même. L'accélération, si je puis dire, végétale et musicale. Et là, c'est vrai que non. Donc là, le texte condamne un peu la fin. C'est un texte moins optimiste. Donc moi qui voulais faire un truc pas funèbre, c'est raté. Voilà, parce que c'est pas, il y a pas de promesse de voilà, c'est pas le printemps.
Ça dit, il était pas optimiste non plus, malheur.
Bah attention, moi je trouve que Dasrid, c'est pas, je trouve pas que c'est funèbre.
Non, justement.
C'est vraiment tragicomique. C'est une pièce très, pour moi, c'est, il y a énormément de comédie, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'ivresse. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu pathétique à la joie de l'ivresse pour oublier, et pour il y a le sommeil, il y a l'ivresse pour oublier le malheur. Mais il y a quand même, ça c'est aussi quand même un des signes malériens, c'est que la tragédie ne vient jamais sans, c'est toujours lié. On a toujours la lumière et les ténèbres, enfin c'est toujours, il y a toujours les deux ensemble. Donc il y a quand même, je trouve, cet aspect assez joyeux dans cette œuvre, en fait, même si il y a un côté funèbre et un côté dark. Il y a quand même des moments qui sont extrêmement exubérants, en fait.
Bah,
c'est une exubérance.
Il oui. ne faut pas réduire Dasrid juste à l'adieu. Parce que c'est sinon, ça, du exactement. Coup, en fait, on a la moitié de l'œuvre qui part à la poubelle. Alors qu'en fait, les cinq premiers mouvements, c'est quand même la jeunesse, la beauté, l'ivresse, comme vous disiez. Et en effet, il y a cet adieu qui représente la moitié du temps musical. Mais bon, ça ne fait pas tout. Quoi. Mm.
Merci Jasmine Niel.
Merci
à vous. Merci Anna Slavnech, merci Olivier Cadio. Et puis alors merci aux fondations Mahler et Royaumont d'avoir eu l'idée de cet assemblage qui a donné lieu à cette émission. Et merci au public rassemblé au Salon Mahler de la bibliothèque La Grange-Loret qui accueillait cet enregistrement.